Est-ce qu'il y a une question qui vous vient, rapidement ?
Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé que la première personne qui prenne la parole, ce soit un homme, déjà.
J'ai des amis hommes. Hein.
Et en fait, moi, en tant qu'homme, et là, c'est vraiment d'un point de vue individuel, je comprends très bien les craintes. Enfin, je suis d'accord avec tout ce qui se dit là. Mais est-ce qu'il n'y a pas un fond social et sociologique à interroger dans l'émergence de ces mouvements masculinistes? Je perçois qu'il y a bien une reprise politique qui est faite et une instrumentalisation, mais est-ce qu'il n'y a pas un fond social, sociologique de... Les genres ne discutent plus entre eux, en fait, j'ai l'impression. Voilà, c'est la question que je pose.
Oui, sur les trajectoires de radicalisation des individus, c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas... Oui. Alors après, c'est pas... Je vais laisser la parole. Donc c'est à Séraphin, ça va être beaucoup plus intéressant que ce que je vais dire. Bien sûr, moi, ce que je fais, c'est un constat. J'essaye de donner des... C'était en fait le cahier des charges, de donner des clés de compréhension sur comment se divisent les différents types de masculinisme. Sur les trajectoires de radicalisation, ce que je constate, c'est que sur tous les milieux radicaux, c'est à peu près le même type de trajectoire. Et bien sûr, il y a des facteurs push, il y a des facteurs pull. Et les facteurs push peuvent être sociaux, mais ils peuvent aussi être personnels. Et ensuite, il y a des facteurs qui attirent vers ces groupes-là. Moi, j'essaie de regarder ce qui attire vers ces groupes-là.
Merci. Une autre question là-haut.
Bonjour. Moi, j'avais une question par rapport au diapo. Vous avez cité Jordan Peterson par rapport au chaos. Je n'ai pas tout à fait compris le propos. Je voulais y revenir, du coup, quel était le propos de cette slide.
Merci pour la question. Donc, je vais préciser. Dans les discours masculinistes, vous avez des métadiscours, donc ceux qui sont les grands discours. Un des très grands discours... Et ce sont en fait des discours de substitution, le grand remplacement. Vous voyez ce que c'est comme thèse
Oui.
Ok, conspirationniste si vous voulez. Donc ce sont des discours de remplacement, c'est-à-dire que plus les droits des femmes avancent, plus il y aura du chaos dans nos sociétés.
Parce que du coup, si j'ai bien compris, vous avez, enfin, ou j'ai pas bien compris, vous avez cité Jordan Peterson comme masculiniste.
Oui.
Ah.
C'est un prédicateur masculiniste.
Alors, connaissant ses travaux, c'est très étonnant pour moi, mais voilà, je voulais clarifier ça.
Oui, parce... après, on peut toujours en discuter. Après, c'est quelqu'un qui a permis sur plusieurs décennies de construire un récit de perte civilisationnelle pour des jeunes hommes à cause de l'avancée des droits des femmes.
Alors, il me semble que c'est un collègue psychologue qui a aussi énormément soutenu les femmes, donc qui a beaucoup travaillé aussi sur des phénomènes d'abus qui concernaient aussi des femmes. Mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans, sinon ce sera une longue discussion entre nous deux. Mais en tout cas, j'ai trouvé que cette phrase était un peu sortie de son contexte, parce que je connais bien ses travaux. Donc voilà, je voulais juste y refléter, parce que ça m'a un peu étonnée. Et je voulais dire au monsieur à côté, qui a pris la parole, surtout ne vous excusez pas de prendre la parole en tant qu'homme. J'espère que ce n'est pas le propos de cette journée, que ça ne va pas impacter de cette manière-là. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci à vous.
Une autre question dans la salle?
Oui, alors bonjour, Marie-Zélie Michel, je suis directrice régionale adjointe aux droits des femmes pour le ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est peut-être pas une, simplement une question, mais vraiment plutôt un retour et vous dire à quel point je suis reconnaissante. Déjà, merci infiniment à toutes les associations qui ont organisé ce moment, parce que c'était votre vision, la vision que vous apportez dans la terreur masculiniste, le fait d'exposer à ce point-là les différentes radicalités des masculinistes est extrêmement important, parce que pour ma part, moi, c'est des réseaux que j'essaye d'infiltrer et de comprendre depuis des années. Et effectivement, pendant très longtemps, on a été regardés vraiment comme des féministes complotistes. Et d'ailleurs, sur le point de Jordan Peterson, je vous rejoins absolument, parce que, déjà en termes de... la lutte contre les violences, en termes de lutte contre les violences, c'est quelqu'un qui promeut des propos pro-viol. Notamment, je me souviens d'une interview où il parle du viol, d'une de ses cousines. Enfin, en tout cas, sur ça, je suis totalement alignée. Vous remerciez vraiment d'avoir exposé, de faire un décryptage aussi précis. Parce que je pense que certaines personnes prennent conscience maintenant avec les travaux du HCE. Mmh. Mais effectivement, merci pour cela. Et vous dire que vraiment, en quelques clics, moi je vois sur mon algorithme, qui est plutôt un algorithme féministe, sur Instagram, vraiment en quelques clics, on peut arriver à du contenu masculin ultra violent. Et je pense notamment à Alexis Chan, qui a été notamment interrogé par la commission parlementaire en la matière, où lui, il fait une pesée de sa femme tous les jours. Enfin, il estime qu'il faut qu'il pèse son matériel, sa propriété. Donc, il se filme en train de la peser. Et en fait, il y a aussi un sujet de... Ça fait rire sur les réseaux sociaux, oui, des jeunes. Et il y a aussi, c'est un peu une zone d'ombre.
Pas
parce que
jeunes.
Je pense que... Voilà, certaines personnes s'envoient ces vidéos-là en se disant... et en fait, il faut à la fois... attaquer les plus radicaux et à la fois mettre des mots sur cette zone-là de simplement on s'envoie ce type de vidéo et on consomme du contenu et on gonfle la bulle algorithmique.
Je pense qu'il y a, merci beaucoup pour votre constat et les compliments, c'est très gentil. Mais il y a un constat à faire sur la médiatisation du fait masculiniste. Il me semble qu'on est en train de... Il y a une convergence des mauvaises pratiques du djihadisme avec les mauvaises pratiques des violences faites aux femmes. Et on est en train de construire des récits dans les médias. En fait, je vois dans les médias souvent... Okay, je vais ancrer ma réponse dans le très local, Saint-Étienne. L'attentat des jouets, moi, ma première question, c'est est-ce que les filles vont bien ? Personne n'a posé la question, en fait. Tout le débat public tournait autour, est-ce que nos garçons vont bien ? Oui. Donc c'est aussi une manière de détourner l'attention de la condition des femmes vers la condition... Bien sûr qu'il faut travailler sur les jeunes hommes, sur les garçons, et les moins jeunes aussi, hein. Mais le sujet des masculinismes, c'est certes le numérique, mais c'est avant tout les violences faites aux femmes et l'égalité. Avant tout, et c'est pour ça on en parle aujourd'hui, au mois de mars, même si ça semble incongru de parler des hommes, alors qu'on devrait parler de toutes les femmes formidables qui ont fait avancer les luttes. Hein. Mais oui, c'est ça. Je pense que la médiatisation du fait masculiniste, il y a ces deux phénomènes qui arrivent en même temps, et il y a des résistances qui se créent également, que j'essaie aussi de décrypter, qui sont très lourdes, qui sont... On ne peut pas avoir des masculinismes sans une société déjà patriarcale. Donc on ne peut pas décorréler du terrain. Ce n'est pas des entités qui flottent comme ça dans l'espace.
Et est-ce que
c'est ça. En fait, les questions qu'on devrait... Donc, parce qu'il n'y avait pas de micro, est-ce que cette âme accepte à se faire peser ? En fait, on prend la parole de ces hommes pour content et on ne s'interroge jamais. C'est comme quand les pères sont montés sur les grues. On n'avait que le récit de ses pères grimpeurs de grues. Et à aucun moment, en fait, les journalistes ont dit « Tiens, on va essayer de contacter l'ex pour avoir son côté de l'histoire. » Et d'ailleurs, moi, ça m'a étonné en 2013-2014 que les pratiques journalistiques allaient totalement à l'encontre de la déontologie journalistique. C'est-à-dire, normalement, quand on fait il y a un conflit, on va avoir les deux parties, non ? Bon, là, c'était pas le cas.
Moi, ce qui me questionne, c'est sur l'aliénation parentale. On a souvent, sur le masculinisme, une idée des ados, des choses comme ça, de moments de vie où on est un peu plus fragile. Et en fait, on se rend compte que ce concept qui est destructeur pour les femmes et pour les enfants, qui crée de véritables situations catastrophiques, est intégré dans nos normes et dans la justice.
Alors, dans la terreur masculiniste, j'essaie de décortiquer quels sont les moyens d'action des différents milieux radicaux. Vous avez ces milieux radicaux qui font partie des traditionalistes, qui sont plutôt sur un militantisme norm-fair, law-fair, on dit en anglais, donc subversion des normes, ou alors le combat, la contrainte de l'ennemi par le droit. Ce sont des concepts qui sont issus, en fait, des concepts de la guerre, si vous voulez, sur tout ce qui est conflit hybride, en tout cas la guerre multispectre. Donc la guerre multispectre, c'est aussi bien la guerre informationnelle, la guerre économique, tout ce qui est sous le seuil des violences physiques. Et donc vous avez ces milieux-là qui vont militer. Alors nous, on voit ça comme un militantisme similaire au féminisme, finalement. Ils vont aller lobbyer, ils vont aller faire des entretiens avec des députés, des sénateurs, ils vont parler dans les médias. On voit ça comme quelque chose de très neutre et décorrélé, en fait, des structures de pouvoir. Mais on est sur une manière... La résidence alternée, par exemple. Il y a un projet en ce moment dans les tuyaux qui est signé par 100 députés, notamment du centre. Là, c'est même pas l'extrême droite, c'est le centre, qui est sur la résidence alternée imposée. Alors, il le présente différent. Mais ce texte, ce type de texte revient tous les 2 ans à l'Assemblée. Tous les 2 ans, on a les milieux masculinistes qui vont harceler, en fait, véritablement harceler les députés pour signer ce type de texte. Des textes qui, en fait, font reculer tous les acquis des droits des femmes pour l'égalité. Donc, moi, je parle de communauté épistémique parce que l'aliénation parentale, les faux souvenirs induits et d'autres formes de concepts, entre guillemets, pseudo-scientifiques, souvent adossés à la psychologie évolutionnaire. Donc, vous avez ce type de concepts vont être portés par des groupes qui ont pignon sur rue, qui vont organiser des colloques scientifiques, qui vont diffuser leur science auprès des décideurs politiques. C'est des mini-GIEC. C'est comme des mini-GIEC qui vont ensuite... Mais ils ont créé leur propre crise, leurs propres conditions d'incertitude pour pouvoir militer.
J'avais une autre question aussi au sujet des tradwives. Je me demande si vous avez eu, au travers de vos travaux, l'occasion de travailler dessus. Pour ceux qui ne savent pas, les tradwives, c'est les femmes qui prônent des valeurs plus traditionnelles du féminisme, donc en fait qui reviennent, qui appuient le masculinisme. Et ma question, c'est, puisque vous faites beaucoup de rapports avec le djihadisme, est-ce que vous pensez qu'on pourrait parler d'endoctrinement idéologique, de la même manière qu'il y a des familles qui étaient... qui forçaient à aller faire le djihad leurs enfants, ce genre de choses. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'endoctrinement idéologique ? Comment est-ce que vous considérez la question des tradwives dans vos travaux ?
Ok. Je vais répondre en combinant les deux questions. Quand on regarde le projet de Daesh, par exemple, c'était un projet de création de proto-État et par aussi l'implantation des familles, la reproduction, le travail des femmes. Donc on peut imaginer même, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il faut pas faire trop d'analogies non plus. Je l'utilise cette analogie pour que ça percute surtout. Hein. Il y a des différences, mais il y a l'idée de la famille naturelle et un rôle naturel des femmes au sein de la société existe aussi bien dans la pensée tradwife. Alors tradwife, c'est un concept qui est très répandu en Amérique du Nord, qui l'est beaucoup moins ici en France. Les milieux masculinistes, en fait, s'implantent dans des pays, dans les nations, en contextualisant et en adaptant leurs discours et leurs pratiques. Ce qui existe aux États-Unis dans le tradwives, donc c'est une influenceur, maman qui fait des super pancakes et qui élève 7 gamins, évidemment blanche et blonde, qui va ensuite en fait faire un business de montrer comment on peut être la parfaite épouse bien soumise. Ça n'existe pas trop en France. En revanche, il y a une influenceuse. Je sais qu'on parle souvent de Thaïs Descoffons en tant que tradwife. Moi, je la mets un peu à l'écart parce que Thaïs, elle a eu multiples vies. Et elle a toujours sauté sur le dernier filon. Donc je pense que d'ici 2-3 ans, elle fera autre chose et c'est fini. En revanche, il y a tout un genre sur Instagram, notamment, de bonnes manières. De jeunes femmes qui montrent les bonnes manières. comment recevoir chez soi, comment accueillir la parole de leurs invités et de leurs époux. Enfin, tout ce genre-là. Donc, c'est beaucoup moins grotesque que ça peut être aux États-Unis, et c'est adapté au contexte local. Vous l'avez en Inde aussi. J'ai pas du tout parlé de la dimension internationale. En Inde, il y a énormément de milieux masculinistes, notamment les pères séparés, anti-dot. Donc, pour la dot. Bon, bref, vous avez énormément de militantisme dans la sphère familiale masculiniste. Vous avez maintenant aussi, c'est un phénomène qui est très marginal en France, mais qui se développe au Moyen-Orient, dans le Levant notamment, mais aussi en Afrique du Nord. Vous avez ce que certaines chercheuses appellent la mouvance alt-wala, qui utilise certains éléments de la masculinité religieuse musulmane pour reproduire une forme de masculinité hégémonique, moderne, qui fonctionne très bien sur TikTok. Mais toujours avec ce discours de déclassement par rapport à l'égalité des genres, tout ça. Donc, ils puisent, en fait, c'est un prétexte, la religion, là, pour construire une autre offre idéologique. Et la question, c'était, pardon, je commence à partir dans tous les sens, c'était sur
Tradwife.
Les Tradwife, donc sur le djihadisme, ce qui était intéressant, c'est dans l'opinion publique, les terroristes n'avaient pas de genre jusqu'à ce que les femmes planifient de commettre des attentats. Et tout d'un coup, les terroristes avaient un genre, femme. Et après, ils se sont dit, mais en fait, la majorité sont des hommes. Oui. Donc moi j'essaye de mettre ça un tout petit peu à l'écart pour qu'on se concentre réellement sur d'abord les masculinistes hommes, en sachant que ça existe, mais le principal.
Je vais créer un peu de frustration, mais je vais quand même, vu que j'ai le micro, en profiter pour poser une dernière question quand même. Du côté, d'où je suis, médiation numérique plutôt, et puis en plus un homme qui est bien victime des algorithmes où je reçois des trucs, j'ai quand même l'impression d'une grosse collusion mouvement identitaire et masculiniste. Et la question est un peu bête, vous parliez de la question médiatique, du traitement médiatique des cas, à qui profite le crime aujourd'hui, et c'est qui les sympathisants en France, quoi, parce que vous avez parlé de noms qui sont identifiés, c'est des influenceurs, mais en fait qui est derrière, qui finance, qui bénéficie de tout ça?
Alors, on ne va pas parler à qui profite le crime, parce qu'en fait il faut prendre le problématique à l'envers. Qui va pouvoir exploiter cette mise en commun des ressources masculines? Oui. Donc on l'a vu en 2014 aux États-Unis, et je pense que c'est un peu la matrice de fonctionnement, d'exploitation des milieux masculinistes pour des gains politiques partisans. Politique, pour moi, c'est un terme qui est beaucoup plus large que partisan, donc je parle partisan. Gamergate, c'était un harcèlement massif dans le milieu du jeu vidéo en 2014, contre une journaliste et une développeuse, principalement. Je ne vais pas faire toute la genèse, vous pouvez le googler. C'était donc un harcèlement massif qui a permis de fédérer énormément d'hommes autour de cette histoire antiféministe, mais qui ensuite a été récupérée par le média Breitbart, donc de Steve Bannon, il était à la direction à ce moment-là, pour ramener tous les participants dans ce cyberharcèlement vers le vote Trump. Je raccourcis évidemment. Mais c'était en fait un mode opératoire de certains politiques pour pouvoir récupérer les griefs masculins dans une société qui avance vers l'égalité de manière totalement non linéaire, mais au moins de récupérer en fait ces hommes déclassés. Je pense, il y a un ouvrage, et maintenant l'auteur m'échappe, c'est Angry White Men. Je vais me souvenir. Et donc, ces hommes fâchés et blancs ont participé vers ça. Donc, qui va pouvoir exploiter ça? Eh bien, tout le monde, en fait. Les partis politiques ne sont pas exemptés de la déconstruction qu'ils ont fait à l'intérieur de leur parti, de tout ce qui peut être sexisme et d'autres formes de haine. Hein. on a vu des résistances antiféministes se construire chez EELV au moment des primaires où Sandrine Rousseau s'était présentée, voilà. Et qui ensuite a donné lieu à tout un harcèlement qui ressemblait furieusement à Gamergate d'ailleurs. D'accord. Et qui continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore des hommes, le dimanche après-midi, quand ils sont en famille, qui vont envoyer une photo de leur gros barbecue et leur gros saucisse à Sandrine Rousseau, entre potes, et là, tiens, je envoie sa photo. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça, c'est, ce sont des actions voilà. Donc, est-ce que, on a vu, là, la jeunesse communiste, aussi, il y a des poches de résistance antiféministe partout. Donc, qui va pouvoir l'exploiter? Oui, l'extrême droite l'exploite de manière beaucoup plus explicite. Ça ne veut pas dire que d'autres partis ne peuvent pas le faire. Enfin, dans l'absolu.
Ça devient un outil de plus, finalement, pour capitaliser sur les peurs de chacun. Okay. Merci, en tout cas.